Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Escapade. Nous sommes réunis dans cet Escapadez-vous aujourd'hui avec Léa Bresson et Eliette Guin de la filature du Mazel, ainsi qu'avec Olivier Barrière, qui est chercheur à l'IRD. On va vous parler du pacte de viabilité agro-territoriale, rien que ça. Alors, vous inquiétez pas, justement, on est là pour tout expliquer, essayer de comprendre ensemble ce que signifie ce pacte. Mais donc, déjà, vous l'aurez compris avec cette introduction, c'est un projet qui va se développer donc, autour de la filature du Mazel et donc sur la communauté des communes Causse Égale Cévennes Terre Solidaire, et donc en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Et c'est donc la filature du Mazel qui est là pour accompagner ce projet sur le territoire et l'aider à le mettre en place. Ce pacte de viabilité agro-territoriale, on va rentrer un petit peu plus tard dans les détails de ce que ça signifie donc pour les habitants et pour le territoire. Mais je crois que c'est une idée qui remonte à... C'est un projet qui a déjà des racines un petit peu plus anciennes. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut déjà nous parler du pacte qui avait eu lieu, je crois, en 2015 et qui a un petit peu posé les prémices? C'est Olivier, donc peut-être, qui va nous parler de ce premier projet qui était un pacte, je l'ai perdu là, pastoral, c'est ça?
Oui, c'était un pacte pastoral intercommunal. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. Et qui a commencé en 2013 et qui a été adopté en 2015 suite à un gros programme sur la montagne et l'élevage en montagne, en fait. Voilà. Donc on est arrivé, c'était vraiment expérimental, c'était vraiment sur le fil, et on est arrivé finalement avec des élus et des éleveurs à monter ce pacte qui répondait à un besoin du territoire de maintenir et de développer le pastoralisme.
Alors, on va donc le comprendre, mais un pacte, donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot?
Un pacte, c'est en fait une régulation locale. C'est-à-dire on se met en accord, les acteurs du territoire, mais vraiment les acteurs du territoire, éleveurs, agriculteurs, etc., tous les citoyens se mettent d'accord autour d'un projet de territoire, autour d'une boussole collective pour que le territoire, là en l'occurrence, c'était sur le pastoralisme, maintenant on est sur la viabilité du territoire, pour que le territoire reste vivant et habitable demain. Et en fait, on a fait ce passage entre pacte pastoral et pacte de viabilité agro-territoriale grâce à la Fondation de France qui nous a dit, écoutez, nous on est sur la dynamique de la transition écologique, votre expérience est vraiment unique et super autour du pastoralisme, on aimerait bien l'étendre à une expérience autour de l'agriculture en général et finalement de l'autonomie alimentaire.
Et ce format-là de pacte, vous avez utilisé le mot expérimental. Donc c'est un terme qui est reconnu et qui est développé ailleurs en France ou pas?
Alors, ce terme d'expérimentation, il est reconnu par notre propre constitution, l'article 72.4, et notre législateur qui a appuyé cet article de la Constitution en 2021 pour justement permettre aux collectivités territoriales de s'adapter aux contraintes bioécologiques, aux changements climatiques, etc. Et donc expérimenter. Expérimenter veut dire innover et veut dire faire autrement et donc peut-être déroger un peu au droit commun. C'est ça l'idée fondamentale. On peut déroger au droit commun, dans une certaine mesure, je dirais quand même, il faut que ça soit justifié, évidemment, mais pour pouvoir répondre, pour que les acteurs du territoire répondent d'eux-mêmes aux urgences écologiques et aux changements climatiques, etc.
Léa, Eliette, vous, comment est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois justement de ces projets? Ah, pardon, j'ouvre le micro. Ah.
La filature du Mazel a été Olivier Barrière, chercheur et donc juriste, vous l'aurez compris, à l'IRD, est venu à la filature du Mazel pour faire part de ses besoins de relais au niveau du territoire pour ce projet. C'est un programme de recherche action, ça s'appelle. Et il avait besoin de relais d'une équipe pour faciliter son implantation sur le territoire. Donc, c'est venu. Donc, moi, j'avais connaissance du pacte pastoral et quand j'étais arrivée sur le territoire, j'avais déjà trouvé que c'était un acte très fort de la collectivité et de la communauté des communes pour faire valoir plus de solidarité autour des contraintes essentiellement sur le foncier autour de la filière pastorale. J'avais trouvé que c'était tout à fait remarquable. Et quand Olivier Barrière a sollicité un rendez-vous à la filature du Mazel, on s'est dit que c'était tout à fait normal de réunir une équipe pour faciliter ce projet, qui est un projet tout à fait passionnant, mais compliqué, parce que, bah, comme le disait Olivier, c'est de l'expérimentation. On essaye des choses, on essaye aussi de faire valoir une régulation locale à partir du territoire, à partir des acteurs, à partir des habitants. Et ça, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Habituellement, la régulation, elle tombe d'en haut et on l'applique au mieux. Là, on essaye de la faire sortir du territoire dans l'autre sens. Donc, il y a beaucoup de choses à expérimenter.
Et la filature du Mazel, si on prend un petit temps là-dessus, donc, c'est un espace justement où ces questions, notamment de transition écologique et l'environnement, sont aussi partie prenante du projet maintenant, je crois. Ce n'est pas qu'un lieu culturel au sens artistique.
Non, exactement. La filature du Mazel est une association. On est un tiers-lieu qui a différentes missions, dont celui de la lecture publique, des actions d'art dans le paysage. Mais depuis quelques années, on a développé un argumentaire de pôle d'innovation territoriale pour placer la culture au cœur de la politique de transition du territoire. Et donc, ça demande aussi, puisqu'en tant que pôle d'innovation territoriale, on est forcément très en lien avec un certain nombre de programmes de recherche sur le territoire. Là, le pacte pastoral en est une occurrence, mais il y en a d'autres, et notamment tout le travail, parce que le dérèglement climatique produit, on l'a maintenant dorénavant tous les jours sous les yeux, les paysages se transforment, les filières de production se transforment, l'accès aux ressources se transforme, et tout ceci évolue très vite, donc il faut commencer à vraiment adapter le territoire, les pratiques et aussi les espaces de régulation. Donc l'entrée du pacte de viabilité était vraiment intéressante parce que c'est une entrée juridique.
Comment justement vous avez mené à bien cette mission qui vous était demandée de contacter les gens, de mettre en lien en fait, parce que c'est pas toujours facile en fait.
Non, c'est pas toujours facile. oui, pardon. On est encore dans la phase de co-construction parce que là, il y a une série d'ateliers sur différentes thématiques qui sont organisées jusqu'à la fin du mois de novembre, avant une restitution publique prévue à l'Espérou au cœur de l'automne et au début de l'hiver, donc le 25 novembre. C'est pas facile de mobiliser les habitants et les éleveurs. En revanche, il y a eu un gros travail de ce qu'on a appelé des pré-ateliers en amont tout au long de l'été et même au printemps, où l'équipe composée d'Olivier et Catherine, ou encore Eliette et Jean-Louis, un autre membre de l'équipe projet, sont allés à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs, mais aussi des élus, ou alors des représentants de certaines institutions comme le Parc national des Cévennes ou d'autres. Voilà, on travaille en étapes et en processus. Là, on est sur l'étape vraiment de participation citoyenne dans le cadre d'ateliers, où le pacte, une première ébauche du pacte est rédigée et qu'on soumet du coup à l'avis, aux recommandations, aux remarques, mais aussi aux ressentiments des habitants et des habitantes de l'ensemble du territoire Causse et Goëlle-Cévennes Terre Solidaire, qui est un très grand territoire finalement.
Oui, je voulais qu'on en parle un petit peu. Cette communauté de communes, elle est quand même assez particulière. Moi, je l'appelle la communauté de communes des aigles, en fait, parce que c'est quand même principalement des crêtes. On dirait qu'ils ont découpé ça en fonction. Donc, c'est un territoire particulier parce que ce ne sont pas forcément effectivement des bassins de vie qui se touchent. Enfin, ce sont des gens qui vivent de côté et d'autres, parfois de col.
Comme le nom l'indique, c'est Causse, Égoal et Cévennes. On est sur trois typologies de territoires avec des paysages, mais aussi des habitudes, des géographies complètement différentes. Et effectivement, ce n'est pas nécessairement un bassin de vie. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous d'avoir un programme d'atelier en itinérance qui touche l'ensemble de ce qu'on peut appeler les trois territoires du territoire. Donc Causse, Égoal, Cévennes, Terre Solidaire.
J'en profite parce qu'on a aussi organisé cette émission-là parce qu'il y a des dates justement et que le calendrier débute donc demain à l'Estréchure justement le 23 septembre. C'est le premier de ces ateliers qui se tiennent tous de 18h à 20h. sur des thématiques comme les valeurs du pacte, la coexistence territoriale, les droits d'usage. Et donc, il y en a à l'Estréchure. Ensuite, ça sera à Trèves le 30 septembre, Val d'Aigoile 7 octobre, l'Estréchure 14 octobre, 4 novembre Trèves, Val d'Aigoile encore et l'Estréchure. Et il y a aussi trois grands moments de sensibilisation et d'échange, plus informels, on nous le dit, à savoir à Somane le 24 septembre, donc dans deux jours, dessiner et renouer nos liens avec le vivant, le climatographe, donc à l'Observatoire du Mont-Aigoual, et le 8 novembre à La Salle. Donc vous, si vous ne le savez pas, c'est une communauté de communes qui touche vraiment des communes assez éloignées finalement. En tout cas, en voiture, ça fait loin.
Ouais, en voiture, ça fait un peu de trajet, mais c'est pour ça que c'était important pour nous d'être présents partout. Alors, l'atelier de demain à l'Estréchure, c'est le dernier atelier d'une série sur la thématique 1. On a déjà été une fois à Trèves et une fois au Mazel sur la commune de Val d'Aigoual, parce qu'on a découpé le pacte, enfin Olivier a découpé le pacte en trois grands piliers, et du coup, pour chacun de ces trois piliers, il y a trois ateliers en itinérance qui sont organisés.
Alors Olivier, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ces trois piliers justement, et de comment est-ce qu'ils ont été conçus ?
En fait, ils ont été conçus à partir de des entretiens, des enquêtes, d'un questionnaire qui a été mené et qui est encore en cours là sur tout le territoire, parce que l'idée c'est on est en train de toucher à peu près 20% de la population, et donc c'est de toucher le maximum de gens, le maximum d'acteurs. C'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont en plein travaux, parce que on est à la production agricole, donc là c'est vrai que c'est il faudrait attendre un peu plus de temps, mais on est contraint par le temps, parce qu'il va y avoir des élections au mois de mars 2026, et que là, on est obligé d'accélérer. Alors, les trois grands piliers, c'est d'abord un exposé des motifs où on explicite l'enjeu et l'originalité du projet. Parce que l'originalité, c'est qu'effectivement, comme l'a très bien dit Eliette précédemment, eh bien, on va en contresens. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, mais là, pour une fois, ce sont les acteurs du territoire qui font leur territoire. On leur demande vraiment, mobilisez-vous pour justement, autour de ce pacte, pour faire le territoire, quoi. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'imposé. Ce ne sont même pas les élus qui imposent, c'est tous les acteurs du territoire. Il y a les élus, bien sûr, dedans, mais il y a les agriculteurs, il y a les citoyens, les retraités, etc., les maisons secondaires, les résidents secondaires, etc. Donc les institutions, bien sûr, sont là, et tout le monde participe au même niveau, au même niveau. Et ça, c'est vraiment une innovation qui exprime une démocratie participative, voire contributive, particulièrement originale. Ensuite, il y a toute une dynamique autour de la biodiversité, des ressources, et comment donc accéder à ces ressources? Est-ce qu'il ne faut pas pour certaines ressources bien réguler d'une certaine manière, etc. Il ne s'agit pas du tout de rajouter des contraintes aux contraintes, bien entendu, mais tout simplement de s'adapter le territoire à son devenir et au devenir de tous les territoires sont concernés hein, par le dérèglement climatique. Ça, c'est une réalité. Et en troisième lieu, eh bien, on va innover, parce qu'on doit innover. On doit innover un système de droits d'usage, voilà, un régime de droits d'usage particulier pour justement créer des communs. L'idée fondamentale de ce pacte, c'est de créer des communs, parce que finalement, l'avenir du territoire et des personnes qui l'habitent va dépendre de leur capacité à se collectiviser, à être ensemble et à travailler ensemble et à gérer ensemble leur territoire. C'est, je crois que là, c'est donner une chance, ce pacte permet de donner une chance d'avenir à ce territoire qui va être, comme tous les territoires en France et ailleurs dans le monde, vont être confrontés de plus en plus à des aléas climatiques très forts, à des dynamiques bioécologiques qui font office d'urgence, quoi.
Alors, j'ai plusieurs questions là, du coup. La première, c'est la réception que vous avez eue auprès du public quand vous êtes présenté avec ces questionnaires. On entend, hein, il y a la question, vous avez parlé d'accès aux ressources, la question du foncier, par exemple, des résidences secondaires, l'accès à l'eau, sont pas mal de sujets qui peuvent crisper, qui créent des tensions. Et j'imagine que l'idée de faire ce pacte, c'est aussi pour essayer de faire, comme vous l'avez dit, de la démocratie participative et donc d'essayer de résoudre les tensions en discutant déjà et en essayant de trouver des compromis. Mais il y a aussi, vous parlez tout à l'heure du fait que ce pacte, c'était plus que le droit, ou en tout cas une autre forme. Hein, dans le texte qu'on m'a soumis, il y a justement le côté légal et le côté légitime qui se complètent et des fois qui s'opposent. Et je pense au parc national des Cévennes, hein, qui existe déjà et qui a ses contraintes aussi, qui n'a pas toujours été forcément bien reçu. En tout cas, ça a mis du temps. Du coup, quelle réception vous avez eue par rapport à cette proposition? Ça fera déjà une bonne première question.
En fait, on est dans du droit négocié. C'est-à-dire que les acteurs, tous les acteurs, comme je le disais, ont la même parole. Ils expriment et c'est à égalité. Il se trouve que ça cadre avec beaucoup d'institutions. L'idée, parce qu'il y a une volonté des acteurs, et les acteurs, globalement, sont très réceptifs. Globalement, ils se rendent compte de cette initiative extraordinaire qui est de leur donner la parole et que c'est eux qui vont décider. Alors, vous voyez, c'est un peu difficile. Je me souviens en 2015, quand il y a eu l'adoption du pacte pastoral intercommunal, eh bien, les élus ne cessaient de me demander « Mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible ?» Eh bien, oui, c'est possible. Oui, là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre de parler, d'exprimer et de traduire ça à travers du droit. Du droit parce que ce pacte, en fait, il va être dans un processus de délibération, il va rentrer dans un processus de délibération au niveau de l'intercommunalité, et par son adoption, il va rentrer dans le droit commun. Dans le droit commun qui va concerner uniquement, bien sûr, les contours de l'intercommunalité, évidemment. Mais avec des originalités, avec des possibilités d'aller au-delà du pacte du droit commun, du droit des codes, hein, et donc de s'adapter, donc d'adapter le territoire, spécifiquement ce territoire, aux enjeux de demain, en fonction de la volonté de tous les acteurs du territoire, bien sûr.
Je vais vous poser la même question d'abord, tout d'abord à Léa Elliott. Vous avez aussi été confronté peut-être à des personnes qui ont eu des différentes réactions par rapport à ce projet. Comment est-ce que vous raconteriez un petit peu votre expérience là-dessus?
Alors moi, j'ai uniquement participé à la phase d'atelier. Hein, donc il y a déjà eu 2 ateliers qui sont organisés. Ils ne sont pas représentatifs des 9 et donc ils ne sont pas représentatifs de toutes les débats qui vont animer ce pacte. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que la méthodologie qu'on propose en co-construction, avec l'appui donc de l'équipe de recherche, mais aussi la présence de la filature du Mazel, et aussi, je tiens à préciser et à reconnaître la participation d'Irène Lebeau, qui est vice-présidente à la communauté de communes et qui vraiment est là pour nous accompagner auprès des citoyens et pour vulgariser tout ça, parce que finalement, on parle de beaucoup de mots et c'est pas toujours très bien compris. Donc oui, il y a eu des crispations sur certaines thématiques peut-être très ultra précises, mais sur la philosophie du pacte
en général.
Ouais, sur la démarche en général, c'est très bien reçu. Et si crispations fines il y a, et ben les ateliers sont là justement pour les lever. Donc moi, je trouve que c'est plutôt intéressant comme débat, finalement. Il n'y a pas eu de problème.
Et moi, je rajouterais sur un plan un peu plus institutionnel. En fait, les services de l'État, les agences publiques, dont le parc national, mais le parc national n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres. Je pense aussi le très bon accueil que la sous-préfecture a fait au projet, le très bon accueil aussi que les services de la DDTM ont fait au projet. Enfin, bon, tous les services instructeurs, en fait, ou qui permettent d'appliquer un certain nombre de réglementations sur le territoire sont tout à fait. On sent que les choses ont un petit peu changé. La coopération est un des éléments de réponse pour l'adaptation au changement climatique. C'est pas que des éléments techniques, c'est une capacité à faire société un peu autrement, parce que les ressources vont bouger, les contraintes vont bouger. Il va falloir qu'on apprenne à retravailler ensemble pour répondre aux nouveaux problèmes qui se posent à nous, ou les problèmes d'avant qui se reposent à nous. Et justement, sur ce projet d'expérimentation, je trouve qu'on a une tessiture de coopération assez exceptionnelle sur un tout petit territoire qui est, comme on le disait tout à l'heure, tout petit à la fois. Tout petit par son nombre d'habitants, très étendu en termes de kilomètres carrés, très clivé géographiquement, avec des collectivités qui ont peu de moyens, peu de leviers, peu de services. Mais on a les maîtres mots du projet, moi je trouve. Alors bien sûr, c'est pas un programme de recherche piloté par l'IRD, mais c'est la coopération et c'est l'engagement, que ça soit au niveau des élus qui accompagnent le projet, au premier chef Irène Lebeau qui suit le projet depuis pas mal d'années maintenant, mais aussi enfin tous les autres. Hein, on a quand même et les éleveurs, les producteurs, visiteurs, les habitants qui se sont rendus disponibles au moins sur les temps de pré-atelier. On espère les avoir un peu plus avec nous sur les temps d'atelier pour vraiment finir d'arbitrer les choses qui sont proposées par le juriste, par l'équipe recherche. Mais je trouve qu'on a quand même un vrai sentiment d'engagement et de coopération sur ce territoire. Et c'est pas pour rien que, du coup, il y a une filature du Mazel.
Très bien. Je vous propose un petit temps de pause musicale, on va dire, et puis on se retrouve juste après pour continuer à discuter de ce pacte de viabilité agro-territorial. On écoute le retour à la terre des Fatal Picard.
Tes valises et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier oursin. De penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main dans la main avec le dernier pangolin. La main dans la main avec le dernier vaurien.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Escapade et vous, nous sommes en présence de Léa Bresson, de Eliette Guine et par téléphone aussi avec Olivier Barrière. Donc Léa et Eliette de la filature du Mazel et Olivier Barrière pour l'Institut de Recherche et de Développement. C'est bien ça? J'ai pas dit de bêtises? Ouais, c'est parfait. On parle donc du pacte de viabilité agro-territoriale qui est en train de se mettre en place sur toute la Cosegual Seventerre Solidaire. Et on a donc évoqué un petit peu les grands aspects. Peut-être est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu... Moi j'avais quelques questions terre-à-terre du coup sur ces ateliers et les réactions donc, que le public. Une première question peut-être aux juristes. Donc on a compris le pacte, c'est du droit commun à créer ensemble. Et j'imagine qu'une des questions que les gens vous posent assez vite, c'est quelles sont en gros les sanctions. C'est-à-dire, si dans ce pacte est prise par exemple une décision qui vraiment ne me plaît pas parce qu'elle va à l'encontre de mes intérêts et que je décide de ne pas respecter ça, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, c'est une bonne question, effectivement. Il faut savoir d'abord ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est qu'il s'agit que c'est le fruit d'une transcription juridique des aspirations, de la volonté, des idées, des acteurs du territoire. Hein. Ça, c'est important. Ce n'est pas le fruit d'un expert juridique qui va vous dire ce qu'il faut faire. Pas du tout. On est parti avec une base de données, on a géré beaucoup avec des cartes mentales, etc. On a beaucoup géré toutes les données qu'on a recueillies et l'objectif, ça a été de les transcrire en droit. Voilà. Ça c'est une innovation aussi importante parce que les acteurs du territoire, ils ne vont pas faire le droit, rédiger, ce ne sont pas des rédacteurs. On est d'accord. Mmh. Voilà. Donc, par contre, ils apportent des grains au moulin. Et de là, eh bien, on fait une transcription juridique. Alors, bien sûr, on est dans une arène, confronté à une arène avec des intérêts très divergents, hein, plus ou moins, mais avec un objectif commun, c'est de vivre ensemble et dans la durabilité, dans la viabilité. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de viabilité. La viabilité du territoire, et finalement, que les sociétés humaines vivent avec les écosystèmes, dans les écosystèmes, dans les ressources que ces écosystèmes produisent, etc. Et donc, il n'y a de viabilité là que par de la co-viabilité. C'est pour ça que c'est un maître mot aussi qui est employé et qui est apporté aussi à l'édifice. C'est-à-dire qu'on vit grâce et avec ceux qui nous entourent. L'eau, la terre, les prairies, les forêts, etc. Voilà. Alors maintenant, évidemment, il peut y avoir des gens qui trouvent pas. Alors on essaye justement au maximum, vous l'avez dit, d'arriver à un compromis. C'est ça l'objectif. C'est vraiment ce compromis. Et petit à petit, on y arrive. Parce qu'on est obligé de, effectivement, on écrit les choses différemment. Et c'est l'objectif des ateliers, où on lisse un peu tout ça pour que tout le monde s'y retrouve et que ça fasse consensus. C'est le consensus. On est plus dans chercher un consensus et un compromis, voilà, que d'imposer. On n'impose pas. Nous, on n'impose pas. Bon, le rédacteur que je suis, on n'impose pas. Par contre, après, il y a des contraintes que le territoire peut s'infliger automatiquement, enfin, de lui-même, mais ce sont des contraintes consenties. Voilà. Il a bien conscience que là, il faut acter, il faut aller dans ce sens ou dans un autre. Il faut savoir aussi que, et je répondrai plus précisément à votre question dans une minute, dans 30 secondes, c'est que il faut aller dans le sens des acteurs du territoire. Et les acteurs du territoire, ce n'est pas simplement le parc national, ce n'est pas simplement l'OFB, ce n'est pas simplement la Chambre d'agriculture, c'est l'ensemble des acteurs de ce territoire. Voilà. Alors après, face à ces contraintes et à ces divergences, arriver à quoi ? Il faut savoir qu'un point important, c'est que ça, c'est une première mouture qui va être déposée, qui va être, j'espère, adoptée, etc. Mais on prévoit à l'intérieur eh bien, une modification régulière tous les deux ans de ce texte. Donc ce n'est pas gravé dans le marbre. Tout va évoluer pour s'adapter, mieux s'adapter aux contraintes du dérèglement climatique, aux contraintes diverses qui vont s'imposer de l'extérieur au territoire. Voilà. Et enfin, effectivement, l'idée, c'est qu'à partir du moment où ça rentre dans le droit, bien sûr, il faut savoir qu'il n'y a pas de mesures coercitives, hein, mais ce sont des prescriptions. Donc, ce sont des règles et des normes qui s'appliquent, qui s'imposent, bien sûr, mais qui orientent les politiques publiques, qui oriente les politiques de chaque commune, parce que chaque commune a été consentante à faire partie de cette entité intercommunalité, et donc de jouer le jeu à travers un pacte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on génère du commun et une forme d'association collective, où là, on gère collectivement le devenir du territoire. Donc effectivement, il peut y avoir des gens qui peuvent s'opposer parce que bon, mais ça doit se régler. On a prévu une plateforme exprès pour régler ce genre de situation où par la discussion, par les échanges et par la concertation. Voilà.
Le consensus actif, quoi. Donc c'est impulser aussi des changements des fois d'habitude. L'idée, c'est de pas forcément juste faire la somme des besoins et des, et des aspirations de chacun, mais de trouver ensemble peut-être comment des fois s'adapter à ces choses-là. Et c'est vrai, vous l'avez souligné, le fait que les communes participent aussi, ou les institutions locales, en tout cas, ça peut aussi amener un changement de mentalité, parce que parfois, il est nécessaire aussi sur certaines pratiques qui s'opposent ou qui sont peut-être... des fois daté. Tu voulais réagir, Léa ?
Non, mais moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le pacte, une fois qu'il sera adopté en conseil communautaire, il fera aussi l'objet, comme le dit Olivier, de potentielles révisions, de potentiels ajustements, mais aussi d'une animation de territoire qui sera certainement portée par la communauté de communes et par les élus dans leur commune propre. Par exemple, autour du pacte pastoral, il y a une chargée d'animation qui s'occupe de le faire vivre et de sensibiliser les citoyens aux enjeux qu'ils défendent. Donc, c'est pas un pacte pour un pacte, c'est un vrai projet de territoire, en fait, un vrai projet de territoire vivant. En fait, c'est de la loi, c'est du droit vivant, en fait. Hein.
C'est du droit vivant et c'est aussi un outil juridique au service de la réorientation. Je dirais douce, enfin, le propos c'est pas de faire une révolution au niveau d'un territoire local, mais c'est de prendre en compte la parole des gens qui pratiquent ce territoire pour une réorientation, pour une meilleure adaptation pour les années à venir, même si ça commence tranquillement, quoi. Voilà.
Puis comme on l'a souligné, en plus le changement climatique malheureusement nous réserve peut-être des surprises. Et donc là, c'est forcément vivant parce que les conditions sur lesquelles on réfléchit et on essaie de s'adapter sont elles-mêmes mouvantes. Donc il faut de toute façon, on ne peut pas tout anticiper.
On ne peut pas tout anticiper. Le propos, c'est d'avoir des outils pour commencer à travailler un peu dans la bonne direction.
Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi ça le but, pas caché, mais en tout cas, c'est aussi finalement de faire de la sensibilisation, et, parce que c'est déjà une des bonnes premières parties, c'est qu'on soit au moins d'accord sur le fait qu'il y ait une transition, qu'il y ait une évolution du climat. C'est peut-être déjà pas forcément évident en première instance.
En tout cas, je pense que c'est visible de chacun que dans les pratiques professionnelles, notamment sur le secteur de l'agriculture, il y a des modifications à entrevoir. Après... Voilà, chacun donnera le constat de pourquoi du comment, mais il y a un besoin réel d'adaptation à différentes contraintes, parce que, alors on parle du changement climatique, mais on parle aussi des usages et puis des habitudes de vie. C'est pour ça qu'il y a tout un volet sur la solidarité et la promotion de la production locale et de comment on peut accompagner les producteurs à aller vers une agriculture... comment les productions locales peuvent s'adapter, mais aussi comment les usages des consommateurs peuvent aller vers plus de production locale, enfin en tout cas vers une solidarité de territoire. Les circuits courts, tout ça, c'est des enjeux qui sont défendus aussi dans le pacte.
C'est quand même malgré tout, on a l'impression qu'on souligne des choses qui pourraient pas aller, mais c'est quand même des choses qui sont déjà très vivantes sur le territoire, hein, qui est quand même pas forcément, je pense, représentatif de toute la France, et qui est assez jolie et chouette dans chez nous, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, il y a quand même des usages, que ce soit le tourisme ou l'agriculture, etc., qui s'enrichissent les uns les autres, j'ai l'impression.
Mais là où ce qui est intéressant avec le PAC, c'est que c'est la collectivité qui affirme politiquement que c'est un projet qu'elle souhaite défendre et promouvoir. Donc,
c'est un acte déjà de discours, voilà. Qui est pas mal.
Et juste pour renforcer cela, ça ne se voit pas sur tous les territoires. C'est unique d'avoir une collectivité qui appuie autant sur une capacité d'adaptation. C'est pas facile, mais il y a beaucoup d'autres territoires qui ne se saisissent pas autant de ces questions, qui sont encore dans la phase de subir. Et c'est vrai que, comme vous le faisiez remarquer, les Cévennes sont un territoire pilote pour l'adaptation, parce qu'on est un territoire méditerranéen de moyenne montagne. Donc forcément, on cumule des vulnérabilités qui sont de plus en plus présentes et qui se transforment très vite sur l'accès à l'eau, sur la transformation des paysages, sur les pics de chaleur, sur les risques incendies, les risques d'éboulement, enfin, les pluies torrentielles, j'en passe. Donc, mais on vit très bien en Cévennes, mais il faut du coup anticiper ces nouveaux et gérer ces risques qui sont plus présents de façon plus adaptée.
Je vois, avant vous parler des décisions aussi des fois symboliques, pour le cas des résidences secondaires, qui est quand même aussi une question dans nos territoires touristiques. On a tous vu après le Covid aussi la difficulté d'accéder, que ce soit au foncier pour les agriculteurs ou à des logements pour des gens qui le souhaiteraient. On voit aussi des grandes villes qui de plus en plus se mettent le haut là, notamment... Après, on ne peut pas interdire aux gens de louer ou de vendre leur maison, mais en tout cas, par exemple, sur les plateformes Airbnb, des choses comme ça, on sent même à des grandes échelles des changements aussi d'habitude, même si j'imagine qu'effectivement, le droit de la propriété privée reste un droit sacré et qu'il est difficile d'être remis en question, mais peut-être que si déjà les mentalités et l'esprit général, bon, on va dire, on arrive presque sur le domaine de la morale, j'ai l'impression, quelque part. On touche un petit peu ces frontières-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Barrière, de cette notion de morale là, dans le droit ou dans le pacte ?
Je ne sais pas si on peut parler de morale, mais en tout cas, voyez, par exemple, le pacte respecte tout à fait le droit de propriété, mais le droit de propriété doit être mis de plus en plus au service de l'intérêt de tous, au sens de la viabilité du territoire. On garde sa propriété, mais il y a une fonction sociale. Et dès l'origine, d'ailleurs, en 1804, de la création de l'article 544 du code civil, du droit de propriété, eh bien, cette fonction sociale était là, sous-jacente, plus ou moins exprimée. Et puis, bon, il y a eu Proudhon, c'est vrai qu'il a exprimé d'une certaine manière. Mais là, nous, on le respecte complètement, mais les propriétaires ont un jeu à jouer, ont un rôle, une fonction, tout comme les autres usagers du territoire. Alors, c'est vrai que c'est pas de la... je sais pas si c'est de la morale, mais c'est une manière de voir l'évolution du monde et ce rapport au monde, quoi. Ce rapport au monde doit être beaucoup moins individualiste. Et au niveau d'un territoire, il faut vraiment générer du commun, où c'est l'ensemble des acteurs du territoire qui se mobilisent pour leur territoire. Vous voyez, donc, je ne sais pas si on peut mettre de la morale,
peut-être
de la
religion. Le mot responsable, alors, la responsabilité peut-être est...
Oui, alors, par exemple, pour les résidences secondaires, ce sont les élus qui vont être responsables de l'application de la loi Lemeur toute récente là, qui leur permet de ne plus construire pour une résidence secondaire, de limiter la durée de location, etc. C'est la loi Lemeur, une loi nationale, hein. C'est pas nous qui l'inventons. Donc à eux de s'en saisir ou pas. Ça vient de leur responsabilité. Parce qu'il y a un gros souci là, bon, là-dessus, vous l'avez évoqué, mais puis il y a la problématique foncière, etc., mais qui est rattachée. C'est cette spéculation que ça génère, quoi. Il y a des communes, beaucoup de communes, qui sont au-delà de 40, ça va entre 40 et 85% quand même de résidences secondaires. Donc on peut s'interroger. Et les élus doivent s'interroger et peut-être utiliser maintenant les outils qui existent pour limiter. Il ne s'agit pas d'opposer du tout, mais de limiter cette extension de résidence secondaire au risque d'aboutir à un territoire un peu appauvri du vivant, quoi, parce qu'on a besoin d'écoles, on a besoin de jeunes qui s'installent, on a besoin de jeunes exploitants. Et tout l'enjeu du pacte, c'est de promouvoir les jeunes, l'installation des jeunes et la vie du territoire, en fait, hein. La vie, c'est la viabilité du territoire. Voilà, après, à chacun sa responsabilité, quelque part. Et puis, il y a une évolution du pacte qui se fera. Donc, selon les générations, selon les personnes, ça va évoluer différemment. Et puis, il y aura toujours cette plateforme qu'on institue dans le pacte, plateforme des troisièmes pour justement médiatiser, mutualiser et travailler ensemble, quoi.
Ben écoutez, merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus éclaircir avec nous et nous présenter ce projet passionnant. Alors, on est vraiment au cœur de la démocratie. Il y a pas mal de dates que j'ai annoncées un petit peu en début d'émission. Est-ce qu'on peut les retrouver, toutes ces informations ?
Alors, vous pouvez tout retrouver sur le site de la communauté des communes Causse-Égouale-Cévennes Terre Solidaire, la CACTS. Vous pouvez tout retrouver sur l'agenda de l'Office de tourisme Sud-Cévennes ou sur les différents réseaux sociaux que la filature du Mazel possède, donc ouais. Facebook, Instagram et autres.
Parce que donc c'est la saison des ateliers là avec les champignons aussi. C'est l'occasion, vous pouvez faire les deux en même temps si vous voulez, sur cette super communauté de communes. Donc de septembre à, on va dire, fin novembre, en tout cas beaucoup d'ateliers. Le texte se fera donc ensuite l'objet d'une présentation publique, tu l'as dit Léa, le 25 novembre à l'Espérou, mais on vous annoncera ça sur les antennes de Radio Escapade et donc finalement au conseil communautaire, qui est quand même le but ultime en tout cas de cette première phase, le 10 décembre, avec une enquête publique ensuite en janvier sur toutes les communes pour voir un petit peu déjà comment ça se met en place. Est-ce qu'il y a éventuellement des endroits où on peut lire ou des choses sur un petit peu sur le site de la Comcom?
Sur le site de la Comcom, il y a une présentation et du pacte pastoral et du pacte qui est en cours de rédaction. Pour l'instant, le texte, il est lu et amendé et discuté pendant les ateliers. Donc, on vous invite vraiment pour découvrir le pacte à nous rejoindre sur les ateliers qui ont lieu donc à Trèves, Val d'Aigoual et Lestrichure.
Si vous n'êtes pas habitant de cette Comcom, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller jeter un œil.
Exactement.
Parce que c'est passionnant. Et merci beaucoup à tous les trois d'être passés ici. Et puis, bah, très vite alors.
Merci
et bons
beaucoup.
Ateliers
merci
à
beaucoup.
Tous.
Escapade.
Et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.